Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Nouveau projet et en route. Au programme, lauréat-lauréate, concours de récits de voyage 2023, deuxième prix, la dernière heure de Bilbao, par Alain Setny. Et mention spéciale. Bonne écoute!
Lauréat lauréate, concours de récits de voyage 2023, deuxième prix, la dernière heure de Bilbao, par Alain Setny. Un texte présenté par l'équipe de rédaction, paru dans l'édition printemps-été 2023 de la revue Nouveau projet. Tanzanie, Espagne, Italie. C'est vers ces pays que nous transportent les gagnants-gagnantes de notre concours de récits de voyage 2023. Au soir du jour de l'an, un homme croise la mort en déambulant parmi les confettis qui traînent dans les rues de Bilbao. Ce texte a remporté la deuxième place au concours de récits de voyage organisé par Nouveau Projet. Considéré dans ce texte. Un vieil homme épuisé dans une ville futuriste. Un lopin de terre au milieu de nulle part. Une rétrospective d'Alice Neal. Quelques employés municipaux vêtus de gilets jaunes. Tout va s'arranger, c'est faux. Je sais que tu sais. Des fois, je saurais plus trop quoi dire. Mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, il n'y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. Aurel San, Jour meilleur, Civilisation. Toulouse, le 15 décembre 2021. En cet après-midi d'hiver, survient comme un événement dans l'azur, parsemé de nuages diffus, en voie d'effilochage, les contrails d'un avion qui trace un sillon blanc et déchire le ciel, tel le coup de pinceau jailli du bras du ou de la peintre pour rompre l'harmonie d'un tableau convenu et en faire un chef-d'œuvre. Je regarde le ciel en me désespérant de n'être pas capable de cette perception purement désintéressée qu'est la contemplation. Peut-être devrais-je freiner un peu sur les substances et forcer davantage sur la méditation. Je n'en peux plus d'attendre qu'une nouvelle utopie surgisse dans ma tête comme une pincelada. La dernière concernait l'achat d'une maison et d'un lopin de terre sur la barre transversale du A de l'Atlantique, une île fantasmée située quelque part dans l'imagination d'un auteur de bande dessinée. Bien que plus séduisante que le transhumanisme ou la fuite dans l'espace, cette idée n'était pas pour autant mon utopie à moi, c'était celle d'un autre qui en avait tiré une histoire. J'aurais juste besoin d'une modeste utopie qui saurait concilier la finitude du monde et le désir infini, ou peut-être, à défaut, de quelques jours de vacances. Bilbao, le 31 décembre 2021. Jusque-là, tout s'était bien passé. Ce voyage me faisait oublier l'ambiance délétère d'un monde qui n'en revenait pas de la COVID-19 et de ses conséquences, sans parler des changements climatiques, de la guerre en Ukraine que l'on voyait venir et de tout et toutes ces migrants-migrantes pour qui on n'aurait jamais assez de chaises. Il était plus que temps de prendre de la hauteur. Qui ne rêverait pas d'une visite au musée Guggenheim un jour de la Saint-Sylvestre, en habit printanier? À l'affiche, une rétrospective de la peintre Alice Neal avec ses portraits expressionnistes, perspicaces et chargés d'émotions, des marges de l'Amérique, peints avec empathie par une femme au regard engagé, qui aimait les perdants-perdantes. À l'issue d'une vie dont on peut deviner qu'elle ne fut pas toujours drôle, Alice a su peindre la vulnérabilité de tout et toutes ces oubliés dont elle fit le portrait. Son talent a su amener ces derniers et dernières à la place des premiers et premières, au Palais des Merveilles, pour notre satisfaction. Quant à ces pauvres gens, disons que ça leur fait une belle jambe. La magie de cette exposition, dans ce lieu magnifique, c'est qu'on en sort grandi. On se sent paladin en armure de titane, au moins pour un moment. On se souvient, avec Romain Gary, que les droits de la personne, ce n'est pas autre chose que la défense du droit à la faiblesse. Bilbao, le 1er janvier 2022. C'est le jour de l'an. Je descends dans la rue en espérant trouver une boulangerie ouverte, bien que je sache que tout sera fermé. Tout ce que je vais trouver, c'est une ville en train de faire sa toilette à l'aube ensoleillée d'un lendemain de fête. Mais je pourrais entrer dans son intimité pendant qu'elle se débarbouille des miasmes de la nuit, de l'année, du passé. Quelques employés municipaux, vêtus de gilets jaunes, tourbillonnent dans les rues, perchés sur des balayeuses vertes, munies de brosses bleues, qui nettoient vos chaussures quand elles passent trop près, dans un bruit dérangeant de tondeuses à gazon. Des ouvriers, conscients du cadeau qu'ils nous font, être les seuls à bosser, afin que tous et toutes profitent d'une ville bien propre pour la nouvelle année. Des couples adolescents, pas encore couchés, terminent leur nuit en se faisant des bisous sur les bancs du jardin qui domine la rivière. Et sur le pont voisin, au nom imprononçable, si l'on n'est pas né basque, un camion de churros tient lieu de point d'eau. Des churros frais sortis de leur bain de friture qu'il faudra manger chaud, sinon c'est immangeable, surtout accompagné d'une tasse de ce chocolat chaud si épais qu'on dirait de la crème, car le camion ne vend pas de café. Ce matin, la ville est déserte et la température invite à faire un tour à la plage avec les Bilbaínos et Bilbaínas pour regarder les surfeurs, surfeuses qui profitent du printemps en janvier pendant qu'il est encore temps. Une belle journée pour commencer l'année. Vers 17 heures, la place Unamuno a retrouvé un peu de son activité. Carré, pavé de marbre, bordé de collines sur deux de ses côtés, et par les rues Ituribide et Ascao sur les deux autres, du côté de la ville, la place est au-dessus du niveau des deux rues. Pour y accéder, on monte quelques marches. C'est là-bas que je pars retrouver mes amis avec qui je m'assois. On parle du voyage, qu'ils trouvent bien agréable, de ce qu'ils en espèrent, une carte postale dans laquelle figurer, des occasions multiples d'échanger quelques mots avec des inconnus qui parlent une autre langue que celle de tous les jours. Une langue que j'ai, moi aussi, du plaisir à parler, pour avoir l'impression de me renouveler et ne plus être là, de n'être que moi-même. À quelques pas de nous, deux gars viennent d'arriver. Le premier, vêtu avec simplicité, reste dans mon esprit comme une tache floue, la présence diffuse d'un homme de la rue qu'on ne remarque pas tellement ils se font dans le décor. Mais le second attire l'attention, avec son air de Bouddha de banlieue portant sur ses épaules la misère du monde. Son ami l'a aidé à venir jusqu'ici, puis il s'en est allé. Le Bouddha a de petites jambes qui peinent à le porter, vêtu d'un pantalon de jogging usagé qui, un jour, a été propre. Il s'est assis par terre pour prendre un peu de repos les deux jambes en tailleur sous un ventre foisonnant dont l'ampleur rappelle les efforts qu'elles ont dû déployer pour l'amener jusqu'ici. Le Bouddha fatigué, assis au pied de l'escalier, soupire, puis laisse aller son torse sur les degrés de pierre en regardant le ciel, tandis que son dos s'appuie sur l'arête des trois marches. Pas plus de 30 secondes ne se sont écoulées, peut-être une minute, depuis qu'il s'est assis. Je suis à 2 mètres de lui sur la 2e marche, silhouette en contre-jour qui laisse apercevoir des triangles de clarté entre le dos et les marches, comme s'il reposait sur un lit de lumière. Le cou, à la mesure du ventre, se soulève et s'abaisse sur un rythme très lent, dont chaque expiration dit son indigestion d'une vie de mouscaille. Il dit, à qui veut bien l'entendre, que c'est le bout de la route. Il sait qu'il n'ira pas plus loin, mais accepte son sort avec sérénité, car il a l'impression d'avoir fait son possible. Les secours n'ont pas pris de temps pour arriver, mais il était trop tard. Le Bouddha venait de s'envoler au-dessus des nuages, enfin débarrassé du fardeau encombrant, du ventre qu'il traînait de peine et de misère sur les chemins du monde. Il venait de très loin pour avoir son portrait au Palais des Merveilles. Il restera pour moi un héros servantesque à la triste figure. Je l'appelle Bill Bao, pour lui donner un nom et le faire sortir de son anonymat. Le hasard a fait de moi le témoin de ces derniers instants et me rend redevable de cette intimité que je dois mériter. Ma dette m'inspire cette élégie que je me suis mise aussitôt à écrire. Quand elle est terminée, je me dis soulagée. Maintenant, c'est écrit. Mais quelle drôle d'idée de commencer une carrière d'écrivain à la rubrique nécrologique. Alain Santoni était un universitaire nomade, professeur dans des universités exotiques, avant de prendre une retraite à propos de laquelle il se demande encore ce qu'il a fait pour la mériter. Il s'est mis en tête d'écrire pour donner un élan au reste de sa vie et rester un nomade dans l'immobilité. C'était Lauréat Lauréate, concours de récits de voyage 2023, 2e prix, La dernière heure de Bill Bao, par Alain Santoni. Un texte présenté par l'équipe de rédaction, paru dans l'édition printemps-été 2023 de la revue Nouveau Projet. Mention spéciale. Un texte de Nancy Matsumoto, paru le 2 novembre 2022 dans le magazine En route. Encore faim? L'an dernier, dans le but de souligner nos 20 ans et aussi parce que la pandémie nous a forcés à nous adapter prestement, nous avons ajouté des catégories aux meilleurs nouveaux restos canadiens dont les gagnants étaient directement choisis par nos experts. Le palmarès est de retour cette année, mais nous avons quand même décidé de ramener ces mentions spéciales. Bon appétit! Meilleur cocktail de l'année. All the Way Up du Major Tom propose une variante du Manhattan avec whisky japonais Suntory Toki, Amaro Montenegro, liqueur d'abricot et pistache. Pour détourner le classique Manhattan, les gérants du bar Major Tom, Nathan Rye et Wyatt Sutherland, ont sélectionné le whisky japonais Toki de Suntory, puis ont essayé plusieurs solutions de rechange au vermouth doux avant de jeter leur dévolu sur l'Amaro Montenegro pour ses belles qualités florales. La liqueur d'abricot ajoute la touche de fruité qu'une cerise Luxardo apporterait au Manhattan, mais ils trouvaient qu'il manquait une note de noisette. Les amandes étant trop ordinaires, les mixologues ont suivi leur instinct qui les a guidés vers les pistaches. Celles-ci sont rôties, chauffées sous vide dans de l'huile de canola et ensuite incorporées au whisky quelques heures avant que celui-ci soit soumis au « fat washing ». On congèle la mixture, on retire la couche de graisse solidifiée et enfin, on passe le whisky au tamis. Et voilà! Une brillante réinterprétation d'un classique bien aimé qui a traversé les époques. Nathan Rye, qui a glané quelques trucs lors de son passage à la succursale londonienne du légendaire bar Milk and Honey, aujourd'hui fermé, rapporte que les Calgariens sont vraiment enthousiastes de constater que la scène des cocktails dans leur ville est si cool et l'encourage pour la mousser encore davantage. Meilleur dessert de l'année. Le semifreddo au citron salé du restaurant Vin Victoria est un pur délice. Crème, œuf, sucre, purée de citron salé, miel et huile d'olive. J'aime bien une pointe de controverse dans un dessert, déclare la chef Jenna Reich. Ainsi, ce semi-freddo au citron salé fait l'effet d'une petite bombe herbacée, salée-sucrée, sur les papilles, ce qui surprend les clients, même après qu'on les a prévenus qu'il s'agit presque d'un plat plus salé que sucré. La chef, qui aime s'amuser avec les degrés de température et les textures, a commencé avec un gros surplus de citron Meyer en conserve qui restait du Brothers Food and Wine, l'ancien établissement de Bay Street, où a œuvré une bonne partie de la brigade du restaurant Vin Victoria. Comme sa cuisine n'est pas équipée d'une sorbetière, Jenna Reich a opté pour un simple semi-freddo. Ce qui aurait pu être un banal pis-aller chez quelqu'un de moins doué est devenu un truc brillant. Elle rince et réduit en purée des citrons qui ont macéré au moins 6 mois dans du sel ou de la saumure, des grains de poivre, des feuilles de laurier, des clous de girofle et de la coriandre. La purée est ajoutée à une pâte à bombe, une pâte d'eau sucrée et de jaune d'œuf battu, préalablement fouettée avec de la crème épaisse, de la crème légèrement fouettée et un trait de jus de citron frais. La concoction est congelée dans un moule, puis tranchée et servie avec une belle réduction de vert jus au miel de fleurs sauvages et un filet d'huile d'olive. C'est un peu la solution accidentelle à un problème, conclut modestement Madame Reich. Vous écoutez Mention spéciale, un texte de Nancy Matsumoto, paru le 2 novembre 2022 dans le magazine En route. Meilleur plat de l'année. La tomate de la ferme des Quatre Temps, du Mastard, donne une touche herbacée au BLT avec herbes, laitue, fleurs, huile de caméline et gras de bœuf fumé. L'histoire de ce plat sensationnel au restaurant Mastard débute avec l'amour que le chef Simon Matisse voue à la laitue cuite ou grillée. Pour reproduire son goût frais sans cuisson, il a eu l'idée de piler au mortier un mélange de feuilles vertes et blanches, celles-ci étant plus amères, en y incorporant oseille, persil, huile de caméline locale et un peu de verjus. Tomates et huile d'olive faisant la paire, Il a naturellement ajouté une belle grosse tranche de tomates bio. Pour saler celle-ci de façon uniforme, il l'a saumurée brièvement, finissant la présentation par une pointe de fleur de sel et une pluie de petites fleurs comestibles colorées. L'ajout à la table de graisse de bœuf chaude et odorante puise son inspiration dans un plat de bœuf qu'on préparait alors que l'entrée de tomates était en développement. Les deux plats ont fusionné et ont pris leur envol quand le chef Matisse a commencé à s'approvisionner en graisse de bœuf déjà fumée chez ses amis Dalewin Barbecue, situé au marché Atwater. Ils utilisent des bûches entières, ce qui confère des saveurs plus profondes, explique M. Matisse. Comme tous ces plats, celui-ci est plus compliqué qu'il n'y paraît. On se sert de plusieurs techniques en cuisine, ajoute le chef, mais ce qu'il sert est simple à comprendre et se déguste facilement. Meilleur resto pionnier. Le Pei Pei Chei Ao d'Edmonton, chef de file de la cuisine, de l'art et de la culture autochtones, pave la voie aux jeunes. Entré dans la blanche et grise galerie d'art Whiskey Jack, de style art déco, au centre-ville d'Edmonton, et vous serez accueillis par l'odeur du café cri se mêlant aux effluves sucrées-salées du sandwich barbecue au 3B et du ragoût de canard signé par le chef Scott Jonathan Iserhoff. C'est ici que se trouve Pichu Ao, un café de commande à emporter doublé d'une entreprise axée sur l'alimentation et l'éducation, l'une des facettes de ce cocon immersif de cuisine, d'art et de culture autochtone. La galerie de l'artiste Lana Whiskeyjack, où acheter œuvres d'art, bijoux et articles de cuisines autochtones, y est adjacente. Quand il était adolescent, l'émission préférée de Scott Jonathan Iserhoff était « Cooking with the Wolfman ». Le chef des Premières Nations, David Wolfman, était la seule personne à laquelle je pouvais m'identifier, qui avait la même couleur de peau que moi, qui avait une tribune, et qui parlait de fumer du gibier et de revenir à notre régime alimentaire autochtone. Mais M. Iserhoff n'arrivait pas à trouver ses repères à l'école de cuisine de London, en Ontario. Alors, il a renoncé. C'est en cuisinant au très réputé Uccellino à Edmonton qu'il a compris qu'il en avait assez de cuisiner les plats des autres. Le soutien de son épouse d'origine ukrainienne, Svitlana, ainsi qu'un rêve fou. Je cuisinais à l'Uccellino et un orignal, cette grosse bête, a uriné dans ma coûteuse huile d'olive, l'ont incité à changer de cap. Pour Svitlana, la signification du rêve est limpide. Tu dois cuisiner tes propres plats. Ça te rend si heureux, si vivant. Monsieur Iserhoff s'est donc tourné vers la communauté autochtone d'Edmonton, où le bison, et non l'orignal, est la viande de prédilection. Finalement, après une série de restos éphémères de cuisine, autochtones postcoloniales et de contrats comme traiteur, il a ouvert Pipistio, ce nom qui signifie merle d'Amérique en Omushkegowin, Muskegon, est le surnom que son grand-père lui donnait quand il était enfant. Il était primordial d'avoir un nom cri pour notre entreprise, car le simple fait de le prononcer revient à partager l'espace et à se le réapproprier, dit-il. Les plats qu'il propose puisent à même ses souvenirs avec ses aînés de la Première Nation d'Attawapiskat, situé dans le nord isolé de l'Ontario. Le fumage d'outarde dans le tipi et mon grand-père qui me faisait rôtir les gésiers sur le feu, par exemple, ou la bannique, le goût d'orignal et tout l'amour qu'ils mettaient à cuisiner pour leurs enfants et petits-enfants, s'assurant que vous repartiez de la maison ou du campement le ventre plein. Il rêve de lancer un resto à part entière où il pourrait recevoir des chefs autochtones qui transmettraient leur savoir-faire à des jeunes de la communauté n'ayant pas accès à l'apprentissage. De la même manière qu'il se sent vivant quand il cuisine ses propres plats, il espère insuffler ce sentiment d'identité par le biais des aliments à une nouvelle génération de restaurateurs et de chefs autochtones. « Quand je cuisine, explique-t-il, toutes mes histoires me reviennent en mémoire. » C'était « Mention spéciale », un texte de Nancy Matsumoto, paru le 2 novembre 2022 dans le magazine En route.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Drion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.